bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe sur les ondes de CKRL 89.1. David Rocketship est ton hôte pour la prochaine demi-heure où on explore l'inexploré, où on touche au surnaturel, où on flirte avec le paranormal. Et comme à l'habitude, la façon dont ça va se passer, je vais être capable de prendre des appels au 418-640-1586. Appelez-moi si vous avez un témoignage à nous raconter ou une histoire à nous faire dresser les cheveux sur la tête. On a aussi des messages que j'ai reçus dans la dernière semaine. J'en ai sélectionné quelques-uns, je vous lis ça en onde dans les prochaines minutes. Et on a aussi une histoire bien racontée. Cette semaine, on suit un jeune couple qui se donne pour mission de traverser le parc des Laurentides en voiture. Ça semble si simple. On commence tout de suite. Donc, comme je vous le disais, j'ai des messages qui sont rentrés dans la dernière semaine. Vous m'avez écrit à outretombe.ckrl@gmail.com. J'ai sélectionné quelques-uns de vos témoignages les plus effrayants. Et tout de suite, je vous lis le témoignage de Jacinthe, donc de Charlesbourg, qui nous raconte ceci. Ma tante habitait seule, sur chemin de la Grande Ligne, entre Lac-Saint-Charles et Charlesbourg, près de la prison d'Orsainville. C'était encore plutôt rural à l'époque. Elle n'avait pas la télé, mais venait d'entendre à la radio qu'un dangereux meurtrier, connu pour une série de crimes extrêmement violents, venait de se sauver et se cachait probablement dans les environs. Quand elle est allée au lit, elle sentait que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Puis elle s'est rendue compte qu'elle entendait une autre respiration dans la chambre. Elle est sortie de la maison, en robe de nuit, à toute vitesse, et est allée cogner chez le voisin le plus proche, à quelques minutes de course. De là, elle a appelé la police, qui ont éventuellement arrêté le maniaque 2 kilomètres plus loin. Ma tante a ensuite appris, suite à l'interrogatoire, qu'il avait volé un couteau à viande dans sa cuisine et qu'il était caché sous le lit. Il a dit qu'il avait prévu l'assassiner quand elle se serait couchée. Ceci dit, vérifiez toujours en dessous du lit. Merci à Jacinthe de Charlesbourg de nous avoir écrit. Et comme on se parle, j'ai le téléphone qui sonne. Donc, donnez-moi une petite seconde. Je prends l'appel. Voilà. Oui, bonjour. À qui je parle?
Allô, c'est Karim.
Karim, tu vas nous raconter une histoire. Est-ce que c'est une histoire qui est effrayante?
Ben, je pense que oui, là.
Parfait. Karim, tu sais, à Fréquence d'Outre-Tombe, on aime les bonnes histoires, mais on aime surtout les témoignages. Donc, ce que tu vas nous raconter, c'est arrivé à qui?
Ben, c'est arrivé à moi, puis je pense que c'est quand même assez stressant, oui.
Excellent, c'est comme ça qu'on aime ça, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Alors, Karim, je te laisse nous raconter ton histoire.
OK, fait que moi, il fut une couple d'années, j'ai travaillé pour la buanderie, dans le fond, qui est pour l'hôpital Robert-Schwarz. C'est une buanderie qui est séparée de l'hôpital en soi. Et quand on allait sur l'heure du dîner pour aller à la cafétéria dans le fond de l'hôpital, il fallait passer par les souterrains qui étaient connectés ensemble. Puis à un moment donné, je marchais pour aller justement dîner et du coin de l'œil, j'ai comme aperçu dans un des endroits où est-ce qu'il sert les petits véhicules qu'il y avait un homme qui était accroupi face vers le mur. Et sur le coup, j'étais très mal à l'aise, fait que je suis partie rapidement, ben, je croyais que c'était un des internés, dans le fond, qui s'était comme un peu échappé, fait que moi, je suis partie. Fait que j'ai jamais su, à part après, vraiment, c'était quoi. Mais, un moment donné, dans un cours de philo au cégep, il y a un des étudiants qui a mentionné que sa mère, qui travaillait à Robert Schwarz, avait dit qu'un des internés était décédé dans cette position-là, précisément. Puis que des fois, ben, il voyait dans le fond dans l'hôpital. Fait que c'était probablement lui, dans le fond, que j'avais vu dans le coin.
Karim, c'est une très belle histoire, parfaitement comme on les aime. Ça a dû te faire peur quand même quand t'as appris, après coup, que t'étais pas la seule à avoir vu, si on veut, cette présence-là.
Ben, quand même, pour vrai, parce que ça m'a comme confirmé, un, que j'ai pas halluciné. Mais c'est encore plus effrayant de penser que, dans le fond, c'était une personne qui était morte, là, finalement.
Très certainement. Je peux à peine m'imaginer. C'est pas donné à tout le monde, hein, de pouvoir entrer en contact avec des personnes décédées. comme ça. Toi, de ton côté, Karen, est-ce que c'était la première fois que tu vivais ce genre d'expérience-là?
Non, ça m'est déjà arrivé une deuxième fois de vivre un moment avec quelque chose de l'au-delà, là.
Je suis content d'entendre ça, Karine. Je suis content que t'aies appelé. Écoute ce qu'on va faire. J'ai quelque chose à te proposer. Je m'apprête à raconter une petite histoire. Je t'invite à rester en ligne. Rester avec nous. Écoute ça de ton côté. Puis, au retour, on se reparle. Puis, tu nous racontes ton autre histoire. Est-ce que ça te va?
Ouais, parfait.
Super. On se reparle en deux petites minutes. Et pour notre part, je vous raconte une histoire que j'ai tout simplement intitulée « Le parc des Laurentides ». J'ai eu la chance d'entendre cette histoire-là de quelqu'un qui a survécu. Ça s'est passé, ça fait déjà une vingtaine d'années, j'étais adolescent à l'époque. C'était avant que le parc, le fameux parc des Laurentides, soit une autoroute. À l'époque, c'était un chemin, une route qui passait dans la forêt, qui avait beaucoup de vallons, beaucoup de courbes. C'est un chemin qui était quand même assez dangereux, puis ça rencontrait, mais c'était deux voies qui rencontraient. Donc, c'est un chemin qui pouvait être dangereux. Donc, il y a ce couple qui partent en vacances. C'est tard dans l'été. On est rendu fin août, presque début septembre. Puis, le jeune couple part en vacances, passer une semaine au lac Saint-Jean pour passer justement du bon temps, les deux ensemble. Puis, ils doivent partir un vendredi soir, très tard, après leur semaine de travail. Donc, prennent la route du parc de Laurentides, prennent le chemin, puis commencent à rouler. Puis, la jeune dame se dit... En regardant la forêt de chaque côté, puis les vallons, puis les courbes, se dit « Crime, on aurait peut-être dû partir à la clarté le lendemain matin. » Elle a un peu peur, elle dit « Faut vraiment pas qu'on tombe en panne. Si on tombe en panne ici, puis que y a d'autres voitures qui passent puis qui nous voient pas, ça peut être dangereux de se faire percuter. » Donc bref, il roule dans le parc de Laurentides, monte des vallons, descend des vallons, courbe à droite, courbe à gauche, tout ce qu'il voit c'est de la forêt passer de chaque côté de la voiture. Puis là, la voiture commence à roter un peu. Oh, elle commence à hésiter. Là, la jeune femme se dit « Merde, j'espère qu'on tombera pas en panne, j'espère qu'il n'y aura rien de grave. » Puis au-dessus d'un vallon, la voiture étouffe. Puis là, la voiture est en pente descendante, puis descend jusque dans le creux d'un petit vallon. Donc, ils se retrouvent en panne, dans le milieu de nulle part. Ils sont à 12 km de l'étape à ce moment-là. Donc, même s'ils voudraient appeler à l'aide ou se rendre à l'étape, mais ils ont 12 km à marcher sur une route pas éclairée, dans la forêt, c'est dangereux, c'est risqué. Elle regarde à droite, regarde à gauche, il y a que de la forêt. Puis comme ils sont dans le creux d'un vallon, ben ils ne peuvent pas voir ce qui s'en vient ou ce qu'il y a derrière eux. Donc même s'il y a une voiture qui vient, elle va les voir à la dernière minute là. Donc elle a vraiment peur. Puis lui, ben il décide d'aller voir. Il écoute, on va voir ce qui marche pas. Donc il sort du véhicule, ouvre la porte, ouvre le hood, regarde ça tranquillement. Puis il voit que le distributeur, je vous ai dit que ça faisait déjà quelques années, donc on a encore un cap distributeur. Donc le distributeur semble défectueux. Le cap est fendu, il n'y a plus rien à faire avec ça. Il n'y aura pas de feu, la voiture repartira pas, on aura beau essayer. Donc reviens dans la voiture, dis à sa femme, écoute, j'ai pas le choix, faut que je marche jusqu'à l'étape. De là, je vais pouvoir appeler un remorqueur ou au moins... essayer de trouver quelqu'un là qui puisse nous ramener ou qu'on puisse soit être en sécurité pour la nuit. C'est que bref, comme lui veut aussi que quelqu'un reste dans la voiture parce que si quelqu'un passe, ben on peut faire signe puis essayer d'avoir un coup de pouce. Donc il décide à deux que lui va se rendre à l'étape le plus vite possible. À l'étape étant un genre de petit centre de service là, dans le milieu du parc des Laurentides. Puis elle va rester dans la voiture, puis si elle voit une autre voiture approcher, ben elle va pouvoir faire des appels de phare, peu importe, essayer d'avoir de l'aide de cette façon-là. Donc lui part, elle le regarde partir, il marche le long de la rue, passe le vallon, puis à peu près 200-300 mètres plus loin, ben comme il dépasse le petit vallon, elle voit déjà plus. C'est le soir, il fait noir, le soleil est complètement couché, rendu là. Donc, elle est dans la voiture. Attends, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, voit aucune voiture passer. Puis comme il fait noir, elle se dit, elle est un peu inquiète, elle est un peu nerveuse. Elle se dit, bon, ben, je vais me changer les idées, je vais écouter la radio un peu. Donc, commence à tourner le bouton pour synchroniser. Essaye de capter une station. Dans le milieu d'un vallon comme ça, au milieu du parc de Laurentides, on n'attrape vraiment pas beaucoup de fréquences. Donc, elle zigonne, tourne à gauche, tourne à droite. Essaie de trouver quelque chose à écouter. Ah, de la musique ici. De la musique plate. Non, c'est plate, on continue. Oh, puis là, elle tombe sur cet appel.
Nous interrompons ce programme pour vous communiquer un avertissement de sécurité publique. Un psychopathe qui était interné au centre hospitalier Robert Giffard s'est évadé plus tôt dans la journée. Le fugitif a été aperçu à l'entrée du parc des Laurentides. Les policiers croient qu'il pourrait se déplacer sur le pouce sur la route 175 en direction nord. L'homme a été admis à l'hôpital psychiatrique lorsqu'il a été reconnu responsable d'une série de meurtres sordides et de désacralisation de cadavres. Selon les autorités, l'évadé est considéré extrêmement dangereux. Toute personne qui l'aperçoit ne devrait pas l'approcher et contacter immédiatement la police.
Donc là, comme elle entend ça, eh merde, ferme la radio, elle dit ben trop peurant, elle barre les portes, ferme toutes les lumières, s'assure qu'elle est en sécurité. Puis là, elle a les frissons déjà qui lui parcourent le corps, elle dit merde, là mon chum est parti, là-bas chercher du gaz, il y a 12 km à faire à pied, ça peut y prendre des heures, même s'il revient. Puis là, on sait qu'un maniaque criminel, sordide, violent, qui se balade dans le coin. Là, elle dit merde. Puis là, c'est là qu'elle entend, pas très loin de la voiture, dans la forêt, des bruits de pas. Elle se cache dans le banc, elle baisse sa tête juste sous la fenêtre pour qu'on puisse pas la voir de l'extérieur. Puis elle se rend compte que les portes sont pas barrées, donc barre les portes de la voiture, éteint les lumières. Puis là, elle entend les bruits de pas. Puis elle entend les bruits de pas maintenant. Sur la voiture. Puis elle sent la voiture basculer un peu, bouger. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de grimper sur la voiture, qui touche la voiture. Elle n'ose même pas regarder. Elle est calée dans son banc. Puis elle se bouche les oreilles. Puis là, elle entend quand même sur le toit de la voiture les bruits de pas. Il y a quelqu'un qui est grimpé sur le toit de la voiture. Qu'elle se dit, eh merde, qu'est-ce qui se passe? Puis elle entend. Toc, 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 sur le toit de la voiture. Puis là, ça graffine. Comme si ça grattait sur le toit de la voiture. Puis elle entend encore cogner sur le toit de la voiture. Boum! Puis ça graffine encore. Eh merde, qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Elle a rien d'autre à faire que d'attendre. La voiture peut pas partir de toute façon. Il y a rien d'autre qu'elle peut faire. Fait qu'elle attend là, bien calée dans son banc, en espérant que peu importe qui est là sur le toit, elle pense évidemment que c'est peut-être le maniaque qui sera pas capable d'entrer dans la voiture. Puis elle entend encore au bout d'un autre interminable minute. Boum! Boum! Boum, ça cogne sur le toit de la voiture encore. Ça gratte maintenant. Sur le toit de la voiture. Puis ça dure comme ça pendant plusieurs longues minutes. Elle est calée dans son banc, elle se ferme les yeux, puis elle veut être ailleurs. Puis quand finalement, au loin, elle voit un halo de lumière passer le petit vallon devant elle, elle se dit, yes, il y a une voiture qui arrive. Il y a probablement une voiture qui arrive. Donc elle voit une voiture, évidemment, effectivement, arrivé, qui passe le petit ballon. Pas capable au loin de dire c'est quel type de voiture ou quoi, mais bref, elle voit la voiture descendre le petit ballon, puis s'arrêter à côté d'elle, juste de l'autre côté de la route. Et là, elle se rend compte que c'est une voiture de police. Donc le policier arrête à sa hauteur, baisse sa fenêtre presque pas, juste un petit 2-3 pouces, puis avec le porte-voix lui dit « Madame, est-ce que vous m'entendez? » Elle a tellement peur, mais finalement, elle se rouvre les yeux, regarde, bon, elle ouvre la fenêtre juste un peu, elle aussi. Il dit « Oui, je vous entends, je suis là, je vous entends. » Il dit « Ok, vous allez faire exactement ce que je vous dis. » Donc le policier lui dit « Vous allez, quand je vais vous le dire, vous allez débarrer vos portes, vous allez ouvrir la porte du côté conducteur, puis vous allez courir vers nous, vers notre voiture le plus vite que vous pouvez sans regarder derrière vous. » Il dit « C'est la seule chose que vous pouvez faire pour rester en sécurité. » Donc là, prend son courage à deux mains, elle dit « Ok, je suis prête quand vous me le dites. » Donc le policier dit « 1, 2, 3, go !» Il rouvre la porte de la voiture de police en arrière. Elle rouvre la porte du côté conducteur, court aussi vite qu'elle peut, n'ose pas regarder derrière elle. Puis finalement, elle s'enfarge dans le milieu de la rue. Boum! Elle se relève vite. Court, saute dans la voiture de police, ferme la porte derrière elle. Phew, saine et sauve, elle est maintenant assise derrière la voiture de police. Puis là, elle regarde sa voiture, elle regarde la scène, puis c'est là qu'elle comprend ce qui vient de se passer. Sur sa voiture se tient debout le maniaque qui s'est évadé, qui frappait sur la voiture. Boum! 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 Avec le crâne de son mari. Puis grattait avec les dents de son mari pour essayer de rentrer dans la voiture pour aller l'attraper. Puis quand elle a couru pour traverser la rue pour se rendre jusqu'à la voiture de police, elle s'est enfargée dans le milieu de la rue, c'est là qu'elle voit, elle s'est enfargée dans le corps de son mari. Écoutez Fréquence d'Outre-Tombe sur les ondes de CKRL 89.1. C'était l'histoire de ce jeune couple qui traverse le parc des Laurentides. Et la morale de cette histoire, c'est que une chance qu'ils n'étaient pas dans leur crise de la quarantaine parce qu'ils auraient peut-être été en décapotable. Et juste avant de vous raconter mon histoire, on parlait avec Karine. Karine nous a raconté ce qu'elle a vécu dans les sous-sols, dans les tunnels souterrains sous Robert Giffard, où elle a rencontré, où elle a vu possiblement un revenant. Donc, Karine nous disait qu'elle avait une autre expérience à nous raconter. Karine, t'es toujours en ligne?
Oui, je suis là.
Super, merci beaucoup d'avoir gardé la ligne, Karine. Donc, comme on disait juste avant mon histoire... ce que tu nous as raconté là, dans les sous-sols de Robert Giffard, c'était pas ta seule expérience, je dirais, difficile à expliquer.
Non, effectivement, j'ai vécu une autre situation un peu étrange, plus jeune en fait. Là, j'avais 13 ans, j'ai déménagé avec ma mère dans une vieille maison de Limoilou. Et dans cette maison-là, on a vécu quelques petites expériences un peu étranges, mais on trouvait pas qu'il y avait rien de si bizarre, parce que des fois, bon, on se dit c'est peut-être moi qui hallucine ou de quoi, mais les petites affaires, c'était, bon, des armoires qui ouvraient toutes seules, j'avais une vieille télévision qui allumait toute seule aussi, des petites affaires qui s'étaient déplacées dans la maison, fait qu'on se disait que, bon, on devait avoir halluciné ou quoi. Mais la télévision qui allumait toute seule, ça c'était un peu tannant. Fait que ma mère avait décidé de débrancher la dite télévision. Et elle continuait quand même de s'allumer toute seule. Donc là, on commençait un peu à trouver que c'était bizarre, là, tu sais, plus que bizarre même. Mais bon, on laissait ça comme ça parce que, bon, c'est quoi tu veux qu'on fasse? Hein? On s'est dit qu'on devait avoir une entité qui s'amusait avec nous. Puis à un moment donné, on cuisinait pour des invités dans la cuisine, puis on était dos à eux. Mais quand on s'est retourné, on a vu qu'ils étaient blancs comme des draps. Puis là, on leur a demandé qu'est-ce qu'il y avait là, tu sais. Et ils nous ont dit, on a vu comme un enfant passer, mais il s'est comme évaporé. Il a juste passé vite comme ça. Puis là, moi et ma mère, on s'est regardé, puis on a compris que ça devait être la personne qui s'amusait avec nous, finalement. Puis au début, moi, je croyais que c'était peut-être un vieux monsieur, tu sais, qui était décédé, puis qui continuait de, comme, hanter la place un peu. Je l'avais appelé Gustave. Fait Fait que là, ben, on s'est dit que finalement c'était un petit garçon, puis que il devait vouloir nous jouer les taupes, là, finalement.
Bon, fait que vous aviez un coloc, Gustave, dans votre maison à Limoilou.
Ben oui, c'est ça, on était pas au courant.
Et Karine, merci beaucoup de nous avoir appelé, d'avoir partagé tout ça avec nous.
De plaisir.
Et continuez d'écouter Fréquence d'Outre-Tombe sur CKRL 89.1. Et vous aussi à la maison, continuez d'écouter Fréquence d'Outre-Tombe tous les mercredis soirs dès 22h30 sur CKRL 89.1. La seule façon de se donner des frissons et des crises d'honneur sur le FM de Québec. Et faites donc comme Sonia. Tiens, Sonia qui nous écrit qu'elle écoute Fréquence d'Outre-Tombe les mercredis soirs au lit avant d'aller se coucher dans sa chambre à coucher sur une vieille radio des années 50, donc pour ajouter à l'effet ici. Et d'ailleurs, justement, Sonia nous écrit son expérience à elle qui va comme suit. On a une Wii à la maison. Le sensor pour la manette est installé sur le pied de la télé, juste devant la télé, comme chez ben du monde. Le fil pend jusqu'en arrière du meuble. Il est pas vraiment attaché à rien, on l'a simplement laissé lousse. L'autre soir, moi puis mon chum, on était en train d'écouter un film. On était collés l'un sur l'autre sur le divan. À un moment donné, la lampe du salon s'est éteinte, en même temps que la télé. C'était pas une panne de courant, il y avait encore de la lumière dans la cuisine, juste de l'autre côté. Ça a duré que quelques secondes, mais on a tous les deux eu le temps de voir notre reflet dans la télé, et il y avait comme une troisième silhouette assise à côté de nous sur le divan. Quand la lumière est revenue, on s'est regardé, puis le sensor de la Wii est revolé vers nous, comme si quelqu'un l'avait lancé. C'est le fil qui l'a arrêté, puis il est tombé par terre. Plus tard, quand on s'est informé aux anciens locataires, on a finalement appris qu'il y avait effectivement eu une mort violente dans ce salon. Merci Sonia de nous avoir écrit pour partager ton témoignage. Sonia qui, elle aussi, comme Karine, semble avoir un colocataire. On avait dit que le Wii était un jeu interactif, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Et c'est déjà pratiquement la fin de Fréquence d'Outre-Tombe. Je vous invite à revenir la semaine prochaine où on va explorer l'histoire de ce couple un petit peu âgé dans une maison en campagne qui, eux, se rendent compte que leur plus grande peur n'est pas ce à quoi ils auraient pensé. Et on se quitte sur une pièce classique des Misfits, Horror Business, pour fermer cette édition de Fréquence d'Outre-Tombe. À la semaine prochaine!